Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la tradition française de la liberté. Au programme aujourd'hui, Mirabeau, un converti à la cause de la liberté. Une émission de l'Institut Copé, produite par Benoît Albranc. Le nom de Mirabeau est celui de deux grands hommes, et pourtant nous n'en avons retenu qu'un. Avant Mirabeau, tribun charismatique, héros de la Révolution française, il y avait eu Mirabeau le père, économiste de grand renom et l'une des principales figures des physiocrates réunis autour de François Quesnay. Celui qui fut l'un des leaders de la première école de pensée économique avait d'abord été un économiste presque mercantiliste, peu partisan de la liberté économique. La transition de l'un à l'autre se fit en un jour, lorsque Mirabeau fit la rencontre de Quesnay, comme l'expliqua plus tard Dupont de Nemours, dans un article du journal des physiocrates, des éphémérides du citoyen. Ce qui est hautement important pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la science de l'économie politique, c'est que son inventeur, François Quesnay, jugea que Mirabeau deviendrait un digne organe de cette science par excellence et des lois de l'ordre naturel. C'est qu'il chercha à le connaître, c'est que, dès la première vue, il ne marchanda pas sur les erreurs de Mirabeau, c'est que l'âme docile de ce dernier reconnut la vérité, et que cet homme illustre, objet alors de l'engouement de tous les autres, devint écolier, abjura hautement et opiniâtrement son erreur, consacra tout le reste de son temps et de son travail, et voua sa célébrité à la publication de la science découverte par Quesnay. Voilà donc un paradoxe. Mirabeau le père semble être un économiste majeur dans l'histoire de la pensée économique, et pourtant il est parfaitement oublié. Alors pourquoi ? Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Il y a d'abord bien sûr son glorieux fils, Mirabeau, héros de la Révolution française, et auteur de la fameuse phrase « Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes ». Alors dès lors, les livres d'histoire parlent bien d'un Mirabeau, des rues portent son nom, des écoles aussi, et même des ponts, mais chaque fois, il s'agit d'une référence au fils. Dans un sens, on peut dire que le fils a fait oublier le père. Et pourtant, il faut dire que ce n'est pas là le seul obstacle qui se soit levé pour empêcher le souvenir de la postérité. Les démêlés familiaux de Mirabeau le père, qui sont restés célèbres et que nous ne mentionnerons pas ici, ainsi que le jusqu'au boutisme de sa défense de l'école de Quesnay, ont aussi assez puissamment contribué à son discrédit. On peut dire aussi que le style apocalyptique de ses ouvrages, Dixit Dupont de Nemours, pourtant son ami et pourtant lui aussi un physiocrate, on peut dire que ce style a aussi aidé à éloigner d'eux les lecteurs contemporains. Et même son livre « L'ami des hommes », qui fut en son temps si révéré, n'est plus édité, n'est plus l'objet d'études, mais seulement de railleries. L'écrivain Edmond Rousse écrivait par exemple « C'est un de ces livres dont tout le monde parle, que presque personne ne connaît, et que dans chaque génération, un citoyen courageux devrait lire pour en dispenser tous les autres ». Alors malgré ces moqueries et malgré cet oubli général, il faut dire pourtant que Mirabeau le père a été l'économiste tout simplement le plus célèbre du milieu du XVIIIe siècle. Joseph Schumpeter, grand historien de la pensée économique, écrivait par exemple « Mirabeau a joui, bien que ce ne fût que pour quelques années, d'une renommée internationale et nationale bien plus grande que celle d'aucun autre économiste avant lui et après lui, y compris Adam Smith ou Karl Marx ». Alors, avant d'en venir aux ouvrages de Mirabeau, qui ont fait cette célébrité, voyons d'abord la situation de la science économique à l'époque où Mirabeau se fit économiste, c'est-à-dire vers 1750. La science économique, il faut le dire, était encore balbutiante, surtout en France. Cela faisait à peine 50 ans qu'on écrivait dans notre pays sur cette nouvelle science qu'était l'économie politique. Au début du siècle, il y avait bien eu Bois-Guilbert et Vauban, mais ensuite il n'y eut à peu près plus rien. C'est en 1720, après la faillite du système du banquier John Law, que le développement reprit. Il y eut Jean-François Melon, Nicolas Dutot, puis Richard Cantillon. En comparaison du dynamisme de la science économique dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il faut dire que ces trois noms sont bien peu, et il ne faut pas se le cacher. Gournay, Quesnay, Dupont de Nemours, Le Trône, Condillac, Galliani, Necker, Condorcet, Turgot, et bien sûr Adam Smith aussi à l'étranger, tous appartiennent à la seconde moitié du siècle. Entre les deux, il y a un trait d'union, et ce trait d'union est le marquis de Mirabeau. En 1734, le brillant économiste irlandais Richard Cantillon, qui avait vécu à Paris, meurt et laisse le manuscrit de son essai sur le commerce. Ce manuscrit se répand immédiatement. Mirabeau affirme l'avoir eu entre ses mains dès 1740. Il l'étudie en détail, le travaille, et conçoit l'idée d'écrire un livre pour le commenter et pour en diffuser les idées. Et c'est ainsi que naît l'Ami des hommes, traité de la population, qui sort au début de l'année 1756. Dans son livre, Mirabeau a tout à fait avoué cette influence, et on y lit au début « Cantillon fut sans contredit le plus habile homme sur ces matières qui est paru. J'y renvoie ceux qui me nieront les principes. J'aurais pu les répéter ou les extraire, mais d'une part le rôle de plagiaire ne me va pas, de l'autre tout est tellement lié dans cet ouvrage qu'il n'y a pas une pensée à déplacer. On peut douter d'ailleurs que la sécheresse de cette lecture n'ait été la cause de l'indifférence avec laquelle on a laissé passer dans la foule un ouvrage tellement hors de pair. » Mais revenons à l'Ami des hommes, cet ouvrage eut un succès retentissant. Schumpeter, que nous avons cité, affirme que nul autre économiste que Mirabeau, même pas Marx, même pas Smith, n'eut un tel succès. Henri Ripper, biographe de Mirabeau, a aussi écrit « L'Ami des hommes eut un succès inouï pour des livres de cette espèce. Le marquis de Mirabeau devint l'homme à la mode, sa réputation se répandit non seulement en France mais à l'étranger. Bref, il possédait une popularité unique en son genre. » Néanmoins, malgré ce succès, le contenu du livre est un peu plus décevant. Les idées y étaient mélangées et sa défense de la liberté économique était extrêmement timide. On pouvait bien déceler, si on voulait, ça et là, des idées intéressantes et même novatrices, mais dans l'ensemble, c'était un véritable chaos. Et Mirabeau l'avait d'ailleurs tout à fait admis, et à la fin de son livre « L'Ami des hommes », il avait écrit un résumé de ses idées et expliqué « Le précis qui est l'objet de ce chapitre est d'autant plus nécessaire que j'avoue moi-même que la totalité de cet ouvrage est un chaos d'idées et de détails qui n'ont d'ordre que dans les titres des chapitres. » Alors si maintenant nous essayons de rentrer dans ce chaos d'idées, nous pouvons trouver nombre de principes très intéressants. Alors d'abord, Mirabeau y semblait un physiocrate avant l'heure et adopter par avance ce qui sera au fond le credo de l'école de Quesnay, à savoir l'importance de l'agriculture. Il écrit par exemple, dans une belle métaphore, « L'État est un arbre, les racines sont l'agriculture, le tronc est la population, les branches sont l'industrie, les feuilles sont le commerce et les arts. C'est de ces racines, l'agriculture, que l'arbre tire le suc nourricier. C'est aux racines qu'il faut porter le remède, leur donner les moyens de s'étendre et de se rétablir, sinon l'arbre périra. » On y trouve aussi plusieurs idées tout à fait libérales, notamment en ce qui concerne le commerce international. Mirabeau y défend l'idée d'une solidarité des intérêts des nations, comme il y a solidarité des intérêts des individus, et pour les mêmes raisons. « Qu'est-ce que les nations, écrit-il, sinon de grandes familles? Le devoir du législateur est de les unir entre elles. Le globe entier est contigu, tous les pays sont voisins, tous les hommes sont frères. Ce beau secret de la politique commerçante, qu'on appelle prohibition, n'est qu'une grosse bêtise qui suppose des grues dans nos voisins tant qu'elle emploie l'artifice et qui devient la plus sordide injustice quand elle se sert de violence. » Mirabeau était aussi naturellement opposé à l'esclavage des Noirs en Amérique, qu'il considérait être, selon ses mots, la plus dure et, j'ose le dire, la plus impie des servitudes. Quant au thème connexe des colonies, il les critiquait âprement et fit même une prophétie que les colonies retrouveront leur liberté et ce seront les plus fortes qui commenceront dans cette voie. Nous étions 20 ans avant la déclaration d'indépendance des États-Unis, et il écrivait « Le nouveau monde certainement secouera le joug de l'ancien. Il y a apparence que cela commencera par les colonies les plus fortes et les plus favorisées. Mais dès que l'une aura fait le saut, autant en feront toutes les autres. Vainement nos petites cervelles, tant de Londres que de Paris, se creuseraient en spéculation pour empêcher cet événement. Ce qu'elles feront pour le prévenir en accélérera l'accomplissement. Cet écrit durera, j'espère, plus que moi. J'y consigne cette prophétie. » Les idées libérales n'étaient toutefois pas les seules présentes, et Mirabeau, au fond, mélangeait conservatisme, libéralisme, mercantilisme et bien d'autres doctrines encore dans un seul ouvrage. Ce qui, au fond, manquait à Mirabeau, à l'époque en tout cas, c'était un système. Et c'est ce que Quesnay, quand il va le rencontrer, va lui fournir. Il va lui fournir le système de défense de la liberté économique. Alors, Pascal Fessard, traitant de la conversion de Mirabeau à l'école de Quesnay, a bien noté cette absence de système chez Mirabeau, et il écrit « Quesnay voulut mettre de l'ordre dans le chaos de l'Ami des hommes, il voulut proposer à Mirabeau un système, c'est-à-dire une manière de construire en mettant des ordres de priorité et des enchaînements causaux, une manière de fixer les principes et de s'y tenir. » Alors voyons justement maintenant la rencontre entre les deux hommes et la conversion de Mirabeau. Il est important de noter d'abord qu'à l'époque de cette rencontre, Mirabeau est au fait de sa gloire et que Quesnay, à l'inverse, est encore à peu près inconnu. On l'a rappelé dans l'émission précédente, avant la conversion de Mirabeau, Quesnay était un économiste de chambre qui expliquait ses principes d'économie à un public très réduit, fait de Madame de Pompadour et de la femme de chambre de celle-ci. Alors Quesnay, comme tout Paris, eut bien sûr vent de l'œuvre de Mirabeau, et il sentit son intérêt. Voici un économiste proche de ses idées et jouissant d'une célébrité considérable. Même le dauphin affirmait que l'ami des hommes était son livre préféré. Alors Quesnay songea à rencontrer le marquis de Mirabeau pour débattre et pour essayer de le convaincre. Mirabeau a raconté à Jean-Jacques Rousseau cette entrevue dans une lettre qui mérite d'être citée dans son ensemble. Alors voilà ce qu'il lui écrit. J'avais pris mes premières et uniques notions économiques dans l'essai sur la nature du commerce de M. Cantillon, que j'avais depuis 15 ans en manuscrit. Cet auteur, beau génie d'ailleurs à bien des égards, élevé dans le commerce, n'avait fait par ses spéculations et ses recherches que perfectionner l'erreur éclose dans le dernier siècle, qui regarde le commerce comme principe de richesse. En conséquence, j'avais comme lui et tant d'autres conclu, d'après la visibilité, que puisque ma main mise devant mon œil me cache le soleil, ma main est plus grande que le soleil. J'avais raisonné ainsi. Les richesses sont les fruits de la terre à l'usage de l'homme. Le travail de l'homme a seul le don de les multiplier, ainsi plus il y aura de travail, plus il y aura de richesses. La voie de prospérité est donc 1. De multiplier les hommes, 2. Par ces hommes le travail productif, 3. Par ce travail les richesses. En cet état, je me trouvais invulnérable et je papillotais à mon aise la décoration de mon édifice politique, des mariages, des lois somptuaires, que sais-je. Jamais Goliath n'alla au combat avec tant de confiance que j'en eus pour aller chercher un homme qu'on m'apprit avoir émargé sur mon livre ces audacieuses paroles « L'enfant a tété du mauvais lait, la force de son tempérament le redresse souvent dans les résultats, mais il n'entend rien au principe. » Mon critique ne me marchanda pas et me dit tout net que j'avais mis la charrue avant les bœufs et que Cantillon, comme instituteur politique, n'était qu'un sot. Ce blasphème me fit regarder celui qui le proférait comme un fou, mais faisant réflexion qu'en toute dispute, l'opinion respective marche d'ordinaire par représailles, je me retins, rompis la conversation, et pour mon bonheur, je revins le soir questionné à tête reposée. Ce fut alors qu'on fendit le crâne à Goliath. Mon homme me pria de faire aux hommes le même bonheur qu'on fait à des moutons, puisque qui veut augmenter son troupeau commence par augmenter ses pâturages. Je lui répondis que le mouton était cause seconde, au lieu que l'homme était cause première dans la création des fruits. Il se mit à rire, et me pria de mieux expliquer, et de lui dire si l'homme, arrivant sur la terre, apportait du pain dans sa poche pour vivre jusqu'au temps où la terre préparée, semée, couverte de moissons coupées, battues, etc., put le nourrir. J'étais pris. Il fallait ou supposer que l'homme avait léché 18 mois sa patte comme l'ours l'hiver, dit-on dans sa tanière, ou avouer que ce créateur des fruits en avait trouvé en arrivant qu'il n'avait point semé. Il me pria alors de vouloir bien faire participer toute la population subséquente au même avantage, parce qu'également, cela ne pouvait être autrement. La présomption, une fois déroutée dans un sceau, cause la confusion et la haine. Dans une âme honnête, elle opère la reconnaissance et la docilité. Ce fut mon cas. Je priai mon maître de s'expliquer et de m'instruire, car j'étais un pauvre jouvenceau de 42 ans. Il n'avait point encore fait son tableau économique. Ce fut même un bonheur pour moi. Car sentant son utilité et sa nécessité, comme la Genèse dit que Dieu vit la beauté de ses ouvrages, il m'y aurait renvoyé et m'aurait rebuté, attendu que ma nature est fort antipathique à l'application mécanique que demandent les calculs. Il fallut donc qu'il m'expliquât son système, ou pour mieux dire, celui de la nature. Alors Mirabeau, le nouveau disciple, et Quesnay, le nouveau maître, se mirent à travailler ensemble, et la théorie de l'impôt fut le premier livre né de leur collaboration. La mise au point n'avait néanmoins pas été encore suffisante, et les idées y étaient bizarrement mélangées, presque comme l'ami des hommes, au fond. À l'évidence, Mirabeau n'avait pas encore tout abandonné de ses anciennes idées. Madame d'Épinay, proche de Gallieni, écrivit à Voltaire à propos de ce livre « Vous a-t-on parlé du livre de Monsieur de Mirabeau intitulé « Théorie de l'impôt ». C'est un orage, tout y est confondu, obscur, puis des traits de lumière qui éblouissent, qui renversent, des calculs faux, des idées justes, de l'éloquence, de l'amphigourie hardie jusqu'à la témérité, au reste un tableau frappant et vrai de nos malheurs, un léger crayon de remède assez incertain, Le tout l'a conduit à Vincennes, où il est depuis hier. Le 16 décembre 1760, en effet, Mirabeau était envoyé en prison à Vincennes à cause de ce livre. Grâce aux pressions de Madame de Pompadour, on l'en libéra 8 jours plus tard. Mais cet événement marqua profondément Mirabeau. Il écrivit même dans une lettre à son frère « Je ne ferai plus de livres dans le genre financier ». Alors bien sûr, il oublia rapidement cette promesse et se remit à écrire. Mais cette condamnation l'avait cependant changé. Il se sentit pour toujours persécuté et incompris. Il se radicalisa. Commence alors la période de Mirabeau, le disciple entièrement dévoué à l'école de Quesnay. En 1763, Mirabeau publia ce que Melchior Grimm appela l'évangile de la physiocratie, à savoir la philosophie rurale ou économie générale et politique de l'agriculture, réduite à l'ordre immuable des lois physiques et morales qui assurent la prospérité des empires. Mirabeau y adoptait toutes les idées de Quesnay et s'attachait uniquement à commenter le tableau économique comme une sorte d'évangile. Il abandonnait sans regret ses idées, il reconnaissait avec une parfaite soumission s'être trompé en se préoccupant trop de la population et pas assez de la production agricole. Et par la suite, il écrivit uniquement des textes de propagande pour les physiocrates, comme le dialogue intitulé « Les économiques », les leçons économiques également, ou « La dépravation et la restauration de l'ordre légal ». Au fond, il était perverti par l'esprit de secte de l'école physiocratique et il en devint excessif, voire très excessif, dans ses expressions et fit naître la moquerie. Un fameux passage illustre parfaitement cet excès. Mirabeau y parle de l'importance du tableau économique de Quesnay dans l'histoire. Il écrit « Depuis le commencement du monde, il y a eu 3 découvertes qui ont donné aux sociétés politiques leur principale solidité. La première est l'invention de l'écriture, qui seule donne au genre humain la faculté de transmettre sans altération ses lois, ses conventions, ses annales et ses découvertes. La seconde est l'invention de la monnaie, ce lien commun qui unit toutes les nations civilisées. La troisième, qui est le résultat des 2 autres, mais qui les complète, puisqu'elle porte leur objet à sa perfection, est le tableau économique, la grande découverte qui fait la gloire de notre siècle et dont la postérité recueillera les fruits. » Mirabeau, à partir de cette époque, était également de moins en moins original, de plus en plus aigri, mais toujours défenseur du noble idéal de la liberté économique, mais cela ne suffisait plus pour le succès. Et ses derniers écrits, il faut l'avouer aussi, étaient encore plus difficiles à lire que les premiers, et son frère, avec qui il avait une relation très proche, lui avoua d'ailleurs à plusieurs reprises. « Tes économiques m'ont fait plaisir, mais je voudrais que tu puisses, ou plutôt que tu voulusses, t'expliquer d'une manière plus à la portée de tous. » Car moi, qui suis fait à tes phrases, j'étais souvent obligé de relire et je devine quelquefois plus que je ne comprends. » Et quelques années plus tard, il écrit à nouveau « Prends donc garde que ta manière d'écrire n'est pas claire, même pour les gens instruits, et que tes figures rendent des ouvrages intraduisibles dans les autres langues. » Son style apocalyptique et son dogmatisme le sépara d'une bonne partie de la scène intellectuelle de l'époque. En 1767, quand il était encore le célèbre ami des hommes, Rousseau partait pour l'Angleterre et écrivit à Mirabeau « J'admire votre grand et profond génie. Vos ouvrages sont, avec 2 traités de botanique, les seuls livres que j'ai apportés avec moi dans ma malle. » Et Rousseau fut en effet un ami pendant de longues années, mais lui aussi se lassa de la pensée de Mirabeau qui devenait creuse et dogmatique à l'excès. Mirabeau continuait cependant à lui envoyer ses livres, d'abord la philosophie rurale, que Rousseau avoua avoir lu avec grande peine, puis la dépravation et la restauration de l'ordre légal, qui était un essai de popularisation du grand livre du physiocrate Mercier de la Rivière sur l'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, où il défendait l'idée du despotisme éclairé, présenté comme une évidence pour la raison humaine. Rousseau répondit dans une lettre du 26 juillet 1767 « Je n'ai jamais bien pu entendre ce que c'est que cette évidence qui sert de base au despotisme légal. » Rien ne m'a paru moins évident que toutes ces évidences. On prouve que le véritable intérêt du despote est de gouverner légalement. Cela est connu de tout le monde, mais qui est-ce qui se conduit par ses plus vrais intérêts? Le sage seul, s'il existe. Vous faites, messieurs, de vos despotes autant de sages. Vous donnez trop de place à vos calculs et pas assez aux penchants du cœur humain et au jeu des passions. Les Caligula, les Néron, les Tibère. Mon Dieu, je me roule par terre et je rougis d'être homme. Ne me parlez plus de votre despotisme légal. Je ne saurais le goûter ni même l'entendre. Je ne vois là que 2 mots contradictoires qui, réunis, ne signifient rien pour moi. aimez-moi toujours, mais ne m'envoyez plus de livres. » Le nom de Mirabeau, au fond, se faisait peu à peu oublier. Et un autre élément allait achever cette condamnation, la carrière de son fils, qui pourtant avait d'abord mal commencé. En effet, la jeunesse orageuse du jeune Mirabeau avait tellement déçu son père qu'il n'accepta pas de lui donner son nom. Il l'inscrivit dans une école de correction sous le nom de Pierre Buffière. Et par la suite, le jeune marquis de Mirabeau se maria, accumula de lourdes dettes, fut emprisonné pour cette raison, s'en échappa pour rejoindre sa maîtresse, fut interné à nouveau. Bref, c'était une vie agitée. Et son père, naturellement, fut assez sévère, et le jeune Mirabeau s'en vengea. Après s'être échappé de prison, le jeune fils s'était enfui en Hollande avec sa maîtresse, Sophie de Monnier. Il y fit imprimer un pamphlet très acerbe, intitulé « Anecdotes ajoutées au nombreux recueils des hypocrisies philosophiques », qui critiquait vigoureusement les physiocrates et s'en prenait aussi à Mirabeau le père, avec cette phrase très sévère « L'ami des hommes ne fut celui ni de sa femme, ni de ses enfants. Il prêcha la vertu, la bienfaisance, l'ordre et les mœurs, tandis qu'il était à la fois le plus mauvais des maris, le plus dur et le plus dissipateur des pères. » Le jeune Mirabeau finira par se calmer, et après avoir cité ses critiques, c'est à lui que nous laissons la parole pour conclure cette émission. À 39 ans, Mirabeau le fils était devenu un écrivain de haute trempe et sur le point d'être un héros de la Révolution française. Dans la préface de son ouvrage sur la monarchie prussienne, il écrivit « J'offre cet ouvrage au philosophe patriote qui a fait de l'agriculture la plus importante affaire du gouvernement, qui a flétri l'odieux impôt des corvées, qui a réclamé les assemblées provinciales, qui a développé cette grande vérité destinée à être un jour la loi fondamentale de tous les corps politiques, que les hommes, en se réunissant en société, n'ont renoncé à aucune partie de leur liberté naturelle. Vous auriez désiré, mon père, un fils plus digne de vous. Plus j'ai avancé dans ce travail, plus j'ai senti qu'il m'était convenable de vous le dédier, comme à l'un des inventeurs de cette belle science de l'économie politique, qui doit faire un jour le bonheur du monde, et pour comprendre un peu, par cet emploi honorable de mon âge mûr, les peines qu'a dû vous causer ma jeunesse orageuse. »